raisons de sa propre nature. La nature de Dieu, c'est la bonté. Tout ce qui se convient à la ratio boni convient à Dieu. Or, il appartient à la raison de bien de se communiquer aux autres. Référence à Denis, évidemment. C'est un petit principe très difficile. Cherchez dans Denis, hein, vous ne le trouverez pas comme ça, mais ça ne fait rien. Saint Thomas le dit comme ça, c'est transformé par Saint Thomas, parce que c'est une chose curieuse et intéressante. C'est vrai, c'est un sujet très intéressant de chercher d'où vient ce principe. On ne sait pas exactement. Il est de saveur platonicienne, néo-platonicienne, mais il n'est pas dans le néo-platonisme. Il n'est pas exprimé comme ça. Cherchez bien, je sais, parce que j'ai fait enquête quand j'étais étudiant. Et je cherchais. Et je connaissais un étudiant qui avait fait pour le lectorat. Il a pris ça comme sujet. Essayez de voir si, bien, vous ne le trouvez pas. C'est propre à Saint Thomas de l'exprimer comme ça, voyez. Mais évidemment, ça s'enracine dans tout un point de vue de Denis. Donc, il appartient à la raison de bien de se communiquer aux autres. Le bien, voyez, c'est très difficile de dire. Donc, le bien, la ratio boni, c'est de se communiquer, de se donner, si vous aimez mieux, se donner. C'est le propre du bien, c'est de se donner. Le bien se donne. Tandis que ce n'est pas le propre du parfait de se donner. On voit très très bien ça. Non, on touche très très bien. Le bien, c'est ce qui attire. Voilà ce que dit Aristote. Aristote ne dit pas ça. Aristote ne dit pas le propre du bien, c'est de se donner. Non. Il dit le propre du bien, le bien, c'est ce qui attire. Si le bien attire, parce qu'il se donne. Si le bien attire, pourquoi êtes-vous attiré par quelque chose? Est-ce que vous recevez des émanations? Vous dites, c'est plus fort que moi, il m'attire. C'est plus fort que moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Il m'attire parce qu'il se donne, se communique. Force d'attraction. Que le bien réalise. Le parfait, c'est très différent, le parfait n'attire pas. Je ne sais pas, on n'est pas attiré par le parfait. Je ne crois pas qu'on est attiré par le parfait. Cette personne, elle est parfaite. Parfaite. Il ne lui manque rien. Il ne lui manque qu'une seule chose, c'est qu'elle n'est pas du tout attrayante. Ah, ça arrive, des gens. Souvent, ils sont très conscients d'être parfaits. Vous voyez, quand vous êtes trop conscient d'être parfait, on ne peut rien vous reprocher. Absolument rien. Mais il manque quelque chose. Il manque de se communiquer, d'avoir la capacité d'attirer. Et donc d'avoir la capacité de se communiquer. Le bien, c'est ce qui se donne. Je sais très bien, dans le langage néo-platonicien, prenez Platon, le parfait, c'est celui qui est capable d'engendrer. Et Aristote dira, le vivant parfait, c'est celui qui est capable d'engendrer. Et d'engendrer, donc, la fécondité. Ici, on parle de la bonté, la communication. C'est curieux, ça se tient, vous voyez, hein, et c'est pas si commode que ça de bien voir les deux. Parce que Plotin dit, au terme du néoplatonisme, Plotin dit que un être parfait ne peut pas rester seul. Nécessairement, il est source. Vous voyez comment le parfait et le bien se tiennent, hein, d'une certaine manière. Il y a un lien très fort entre les deux. Alors, quand le néoplatonisme dit que le parfait se communique nécessairement, ce n'est pas le point de vue de la finalité. C'est plus le point de vue d'efficience. Comme le vivant qui engendre. Il est source d'un autre être. Tandis que le bien, quand il attire, exprime bien la causalité finale. La causalité finale attire, elle suscite un amour. C'est le propre du bien, de susciter un amour. Mystérieusement, et en suscitant un amour, Il se communique. C'est vrai, il ne peut se communiquer qu'en suscitant l'amour. Ah, vous voyez, les deux causalités, causalité finale et causalité efficiente, quand on définit le bien par le point de vue de la communication, on risque de ne pas mettre avec suffisamment de netteté la différence entre le bien et le parfait. Alors, la causalité efficiente dans la communication se montre. Quand on définit le bien, ce qui attire, on montre le point de vue de la finalité. Et comme la finalité implique toutes les autres causalités, on peut dire que la finalité va nécessairement impliquer de se communiquer. Donc c'est pour ça que je vois très bien comment saint Thomas peut dire ici, il prend ça à cause de ce qu'il veut montrer. Il veut montrer que Dieu va se communiquer d'une façon unique dans le mystère de l'incarnation. Et pourquoi il se communique d'une façon unique dans le mystère de l'incarnation ? Parce qu'il est bon. Donc il appartient à la réalité de bien de se communiquer aux autres. Donc réfléchissez ça beaucoup. C'est un axiome, ça. On peut dire que c'est comme un axiome. C'est pas au sens strict un principe. Il chevauche entre le principe de causalité et le principe de finalité. Et c'est pour ça que c'est pas commode. Hein. On sent bien. On l'affirme, oui, sûrement, c'est vrai. Le propre du bien, c'est de se communiquer. Quand vous êtes bon, vous donnez tout ce que vous avez. Donc, à la raison du bien suprême, il appartient de se communiquer à sa créature, summo modo. À la raison du bien suprême, c'est-à-dire Dieu, il appartient de se communiquer à sa créature de la manière la plus grande qui soit, summo modo. Ce qui se fait maximer. Il faut bien voir les termes de saint Thomas. On est sur la crête. Hein. Ce qui se fait maximer par le fait qu'il se conjoint la nature humaine, ainsi qu'une personne unique, ainsi une personne unique devienne donc deviennent en trois, c'est-à-dire le Verbe, l'âme et la chair, comme le dit saint Augustin. Il y a une espèce d'union qui se fait. Cette souveraine communication se réalise quand Dieu s'unit à la nature créée de façon à ne former qu'une seule personne de trois réalités. Donc, lorsque deviennent des trois, du Verbe, de l'âme et de la chair, une seule personne. Donc, il est manifeste qu'il est tout à fait convenable que Dieu s'incarne. Vous voyez la crête, hein, et c'est, au point de vue de l'intelligibilité, la ratio boni. Alors voyons, le propre du bien, c'est de se communiquer. Si vous êtes en face du bien suprême, le bien suprême est plus que la ratio boni. La ratio boni, vous en avez l'intelligibilité. Le bien suprême transcende cette intelligibilité. Vous ne connaissez rien du bien suprême, mais vous connaissez la ratio boni. Il faut bien comprendre ça. Hein, la ratio boni, c'est intelligible. Je peux saisir ce que c'est que la ratio boni. Au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, je peux saisir ce que c'est que la ratio boni. Tandis que le bien suprême me dépasse complètement. Vous ne pouvez pas dire je comprends le bien suprême. Non, vous ne le comprenez pas. Le bien suprême transcende complètement l'intelligibilité que peut avoir du bien. C'est là le propre de la connaissance analogique. Hein. Alors vous avez le halo, il est complètement autre. Et cependant, vous connaissez la ratio boni. Mais le bien suprême transcende complètement. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez intelliger. Mais puisque vous avez l'intelligence de la ratio boni, vous pouvez dire quelque chose de juste par rapport au bien suprême. Et ce que vous dites est analogiquement vrai. C'est-à-dire que c'est vrai par rapport à la ratio boni, qui est complètement transcendée par le bien suprême. Bien comprendre ça, parce qu'autrement, alors, on ne respecte plus du tout la contemplation théologique, la contemplation du bien suprême. Et vous voyez, le raisonnement de saint Thomas, il est très, très significatif. Hein. Donc, le bien suprême, parce qu'il est le bien suprême, il lui est convenable de se communiquer de la manière la plus forte qui soit. Donc de se communiquer summo modo, selon un mode souverain, suprême souverain. Autrement dit, d'une manière telle qu'on ne peut pas aller plus loin, puisqu'il est le bien suprême. C'est très audacieux comme raisonnement, c'est très beau. La ratio boni demande de se communiquer, le mode du bien suprême demande donc de se communiquer souverainement. Or, l'union hypostatique, c'est-à-dire le verbe qui assume la nature humaine, ou dans le langage de saint Augustin, le verbe, l'âme et la chair qui sont unies dans une seule personne, j'aime mieux dire le verbe qui assume la nature humaine, c'est plus intelligible pour nous, eh bien c'est l'union suprême de Dieu et de la créature. Ne pas être unie plus grande, c'est la plus grande union. Donc c'est la plus grande communication. C'est la communication la plus grande que Dieu peut faire à la créature. C'est de faire que la créature soit assumée en Dieu dans une unité personnelle. Par le fait même, nous comprenons que le mystère de l'incarnation, loin de s'opposer à Dieu, loin de s'opposer à la sagesse de Dieu, le mystère de l'incarnation est souverainement convenable. Et toute l'intelligibilité, c'est la ratio boni, pas d'autre. Toute l'intelligibilité scientifique, c'est la ratio boni. C'est le lien de nécessité qui existe entre la ratio boni et le fait de se communiquer. Donc c'est ça l'intelligibilité. C'est l'intelligibilité, elle est là. Un lien, quel genre de perséité ? Évidemment, vous allez dire quatrième. Le propre du bien, c'est de se communiquer. Quatrième ? C'est quatrième ou est-ce que c'est la ratio au niveau de la nature, au niveau du premier ? C'est pas si commode que ça de préciser. Comme il y a une opération. Il y a un acte libre de Dieu. C'est donc la quatrième. Donc, ratio naturae, regarde primo percé, et puis regarde aussi quarto percé. L'opération comme telle. De la raison de bien, il est de se communiquer. C'est le propre du bien. Mais voyez que c'est très proche. Hein, c'est très très proche, parce qu'on est en face du bien. Parce qu'on est en face du bien. Alors, parce qu'on est en face du bien, le premier et les quatrièmes se tiennent très fort. C'est pas étonnant, puisque le bien, c'est ce qui finalise. Or, le quatrième percé, c'est la finalité. Et donc, on comprend très bien que lorsqu'il s'agit du bien, la raison de bien s'exprime toujours par la finalité. Et donc, vous êtes le lien entre le premier et le quatrième. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est le propre, justement, de la raison du bien de se communiquer. Vous voyez comment saint Thomas, là, dit quelque chose de nouveau par rapport à tous les pères de l'Église. Il fonde en théologie scientifique la convenance de l'incarnation. Il fonde en théologie scientifique la convenance de l'incarnation. Et tout repose sur la bonté souveraine de Dieu. Et au point de vue de l'intelligence, la ratio boni. À partir de là, on comprend les objections, la réponse aux objections. C'est facile, du reste, pas grande difficulté. Une fois qu'on a compris ça, on montre que toutes les choses sont à côté. Dieu demeure immuable dans l'incarnation. C'est la créature qui est changée. C'est la créature qui est unie à Dieu d'une manière nouvelle. Donc Dieu n'est pas changé. Or, il est sage que la créature, qui, selon sa nature, est d'être changeable, ne se rapporte pas toujours de la même manière. très joli du reste, de montrer le caractère de sagesse de Dieu de modifier les liens de la créature à l'égard du Créateur. C'est pourquoi, comme la créature, comme avant elle, n'existait pas, elle est produite dans l'essai. Donc comme la créature, comme avant qu'elle n'existe, elle n'était rien. Il est tout à fait convenable, comme avant elle n'était pas unie à Dieu, ensuite elle le soit. Tout changement vers un état plus parfait est pour la créature son bien. Donc, que la créature soit complètement modifiée, et ça c'est très important pour nous, hein, que la créature soit complètement modifiée dans son statut vis-à-vis de Dieu, dans sa relation vis-à-vis de Dieu par le mystère de l'incarnation, oui c'est vrai. Mais ceci n'est pas quelque chose de contraire à la sagesse de Dieu. Parce que le propre de la créature qui passe du néant vers l'être, c'est l'être donc qui en lui-même contient la plus grande capacité de changement. La créature, du fait même qu'elle est créature, est capable de toutes les mutations, puisqu'elle est passée du non-être à l'être. C'est prodigieux, évidemment, on n'en a pas conscience. Hein. Mais enfin, on est passé du non-être à l'être. Et chacun d'entre nous, hein. Dites pas, ça c'est pour les premiers, nous sommes déjà un peu plus avancés. Non, non, non. Chaque créature, puisque l'âme a été créée pour chacun d'entre nous. Donc, à un moment donné, nous n'existions pas. Ça, c'est sûr. À un moment donné, nous n'existions pas. Et donc, il y a en nous toutes les capacités de transformation. La créature comme telle, c'est son bien de changer vers un état plus parfait. Et la créature a une capacité de transformation quasi infinie. Alors on comprend qu'il y a comme un appétit à se maximer d'union avec Dieu. Et ce maximer d'union avec Dieu se réalise par le mystère de l'incarnation. Donc vous voyez comment on répond à la première objection qui disait que c'était le temps dans l'éternité dans le temps faisait une confusion. L'éternité ne change pas, c'est le temps qui est changé. Ou plus exactement, c'est l'homme qui par rapport au temps est changé. Le mystère de l'incarnation, et ça c'est très très fort ce que souligne saint Thomas ici, hein. Le mystère de l'incarnation fait une mutation dans la nature humaine analogue à celle du non-être vers l'être. C'est pour ça que si on veut vraiment comprendre ce que représente cette mutation, cette transformation de la nature humaine dans le Christ uni au Verbe, c'est une mutation analogue au non-être vers l'être. Il prend ça comme raison. Donc ça va très loin. C'est pour ça qu'on parle de recréation lorsqu'il s'agit de la rédemption, et quand il s'agit du Christ, il y a une mutation, un changement dans la nature humaine du Christ qui est analogue au changement de non-être vers l'être. Et alors, vous êtes loin de toutes les petites explications psychologiques. Vous ne pouvez pas saisir la situation de la nature humaine du Christ dans le Verbe. Parce que la mutation est une mutation radicale. C'est la nature humaine qui, dans le Christ, est totalement changée, radicalement changée. Et pour faire bien comprendre ça, on montre que c'est normal, puisque la créature passe du non-être vers l'être. Ben c'est fort, ça, hein, comme raisonnement. Parce que c'est essayer de nous faire saisir, hein, combien la nature humaine dans le Christ est inconcevable par nous. Puisqu'elle existe en Dieu. Vous ne pouvez pas concevoir ce que c'est que Dieu. Alors, vous affirmez la nature humaine et vous voyez les gestes du Christ. Vous voyez ce qu'il dit. Mais faisons attention. Au point de vue de l'intelligence, nous saisissons l'écorce, nous ne saisissons pas la réalité. La réalité, c'est que la nature humaine, dans le Christ, elle est radicalement modifiée. Elle reste une nature humaine, mais comme elle est dans un état totalement nouveau, elle est radicalement changée. Ça va très loin, ça. Et j'aime beaucoup cette manière dont saint Thomas traite la question. Hein. C'est parce qu'on voit très bien qu'il ne prend pas ça du tout à la légère. Hein. Cette objection, pour la prendre à la légère, répondre tout simplement. Nous aurions tous répondu, mais non, Dieu reste le même. Et la nature, c'est normal. Ah, pas du tout. Il prend ça très au sérieux. C'est que la nature humaine est radicalement changée. Deuxième réponse. Être uni à Dieu dans l'unité de personne n'est pas convenable à la chair humaine selon la condition de sa nature, parce que cela est au-dessus de sa dignité. Cependant, il est convenable à Dieu, selon l'excellence de sa bonté infinie, que Dieu s'unisse à elle pour le salut des hommes. Là encore, renversant l'objection. L'objection partait de l'homme. Et on dit, on confond tout. Mais pas du tout. Regardez bien, mais c'est évident, vous ne pourrez pas comprendre à partir de la nature humaine. À partir de la chair, vous ne pouvez pas comprendre. C'est impossible. Mais à partir de la bonté de Dieu, à partir de, selon l'excellence de sa bonté infinie, et voyez bien qu'il revient, hein, la raison. Alors c'est repris sous un autre aspect. Là, c'est la bonté souveraine. Hein. Et ici, il prend selon l'excellence de sa bonté infinie. Alors c'est tout à fait normal que Dieu s'unisse à elle pour le salut des hommes. Alors prenez ici, c'est la première fois qu'apparaît le salut. Ceux qui s'intéressent au motif de l'incarnation, c'est quand même très intéressant de voir ici. Et ça n'apparaît pas dans le corps de l'article. Voyez le lien entre la christologie et l'incarnation. Hein, on a vu ça, la sotériologie et puis le point de vue de la christologie. Comprendre le lien entre l'incarnation et le mystère de la rédemption. Eh bien, toute la structure de l'article est donnée dans la perspective de l'incarnation, pas de la rédemption. Saint Thomas ne justifie pas l'incarnation par la rédemption. Non. Ad secundum, oui. C'est très intéressant. Ceux qui veulent essayer de saisir la pensée de saint Thomas dans toute sa rigueur. C'est très intéressant. C'est ad secundum. Or, ordinairement, saint Thomas donne dans la réponse aux objections, non pas les choses premières et primo percées. Il donne les propriétés, les choses secondes. Et c'est vrai, il y a là quelque chose de particulier. Et c'est pour répondre, voyez, à cette objection qui consistait à montrer que l'impossibilité de l'incarnation, ou plus exactement, que le mystère de l'incarnation confondait tout, donc c'était quelque chose qui n'allait pas. Alors là, on fait appel au mystère du salut. Troisième objection, on répond à la troisième objection, n'importe quelle autre considération selon laquelle une créature diffère de son créateur est constituée par la sagesse de Dieu et est ordonnée à sa bonté. En effet, Dieu, à cause de sa bonté, comme il est incréé, immobile, incorporel, a produit les créatures mobiles et corporelles. Et semblablement, le mal de peine est introduit par la justice de Dieu en vue de sa gloire. Alors voyez là encore, c'est intéressant parce que ça nous met encore en présence du mystère de la rédemption. Donc, ce n'est pas un mal pour les natures créées d'être changeantes et corporelles, on l'a déjà dit. En cela même, elles manifestent la bonté d'un Dieu immuable et spirituel. Ce n'est même pas un mal pour elles d'être soumises à la souffrance. Celle-ci est l'effet de la justice de Dieu et procure sa gloire. Le seul véritable mal est le péché, car celui qui le commet s'écarte du plan de la divine sagesse et de l'ordre de la divine bonté. Il ne convenait sans doute pas que Dieu s'unisse une nature pécheresse, mais rien ne s'opposait à ce qu'il prît une nature créée, corporelle, soumise au changement et à la souffrance. La seule chose qui s'oppose à la bonté de Dieu, c'est le mal de faute. Ce n'est pas le mal de peine. Donc, la souffrance ne s'oppose pas à la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu assume la souffrance. La souffrance étant une peine. C'est un mal. C'est mauvais, la souffrance. C'est une peine. Mais ça ne s'oppose pas à la bonté de Dieu. La seule chose qui s'oppose. Donc la seule chose que la bonté de Dieu ne peut pas assumer, c'est la faute, c'est le péché. C'est la culpa. Tout le reste, il peut l'assumer. et s'en servir pour faire quelque chose de plus grand. Alors ça, on le reverra, ces choses-là, quand on se posera la question, est-ce qu'il fallait assumer une nature capable de souffrir, hein? Alors, la dernière réponse de saint Thomas. Voici la réponse de saint Augustin dans sa lettre à Volutianus. Dieu, pour s'être incarné, ne laisse pas de gouverner le monde. Et son immensité ne s'est pas contractée dans un corps fragile. Une telle conception est le fruit de la pensée humaine incapable de s'élever au-delà des réalités corporelles. Ce qui fait la grandeur de Dieu, ce n'est pas sa masse, mais sa puissance. Aussi n'est-elle pas à l'étroit dans un corps limité. Et de même que la parole de l'homme se propage intégralement à chacun des nombreux auditeurs qui l'entendent, ainsi le Verbe de Dieu tout entier demeure-t-il en tout lieu à la fois. L'incarnation n'a pas diminué le mystère du Verbe de Dieu. Dieu n'a pas été contenu dans une humanité. Le Verbe de Dieu demeure le même. Donc il porte l'univers par sa vertu. Il continue de porter l'univers, il continue de gouverner l'univers comme Verbe de Dieu. Mais en même temps, il est présent d'une manière unique, d'une manière personnelle, dans la nature humaine. Dans la nature humaine qu'il a assumée. Donc, voilà le premier article. Vous voyez, il est très important parce que il nous aide à comprendre l'insertion du mystère de l'incarnation dans la très sainte Trinité. Et où doit se faire cette insertion? En dehors de la bonté, impossible. C'est la bonté de Dieu qui peut seul nous montrer que c'est convenience, qu'il y a une convenance profonde que Dieu se communique de cette manière folle. Mais la bonté, elle est toujours folle, hein, la bonté souveraine. C'est plus raisonnable. C'est le propre de la raison du bien de se communiquer, mais ce n'est pas raisonnable d'au-dessus. C'est quelque chose d'un autre ordre. Alors, voyons tout de suite l'article 2, puisque toute cette question se tient d'une certaine manière, mais c'est... L'article premier a quelque chose de très unique. L'incarnation était-elle nécessaire au relèvement du genre humain? Alors, vous voyez tout de suite, hein, très intéressant ça. Nous avons donc le premier motif ici, c'est le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire du Verbe qui assume la nature humaine. Quand on parle de l'incarnation, c'est ça qu'on veut dire. C'est l'union personnelle qui existe entre la nature humaine et le Verbe de Dieu dans le Christ. C'est ça l'incarnation. Le mystère de la rédemption, c'est le rachat, le salut des hommes. Sotériologie, Christologie, comme on dit aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre que cet article premier nous montre je ne dis pas le motif, c'est pas la question du motif de l'incarnation, c'est pas ça du tout. Saint Thomas est trop théologien pour pas dire motif de l'incarnation. Il montre qu'on est devant quelque chose, on doit dire que c'est normal à la bonté de Dieu de se communiquer comme ça. Ce qui est faux pour nous, c'est normal à la bonté de Dieu. Quand vous regardez l'incarnation dans la lumière de la souveraine bonté, la ratio du bien, c'est de se communiquer. Et donc, le bien suprême, c'est de se communiquer selon un mode souverain. Or, l'incarnation, c'est le maximum. C'est bien lié, hein. C'est très très lié. C'est beau comme raisonnement analogique. Hein. C'est un très très beau raisonnement analogique de théologie scientifique. Ça, c'est la vraie théologie scientifique, là. Vous l'avez tout. Vous voyez bien, parce que vous partez du fait. L'incarnation existe. Dans la foi, je le sais. Ben, vous essayez d'avoir la petite intelligibilité que vous pouvez en avoir. Et la petite intelligibilité que vous pouvez en avoir, la seule intelligibilité, ratio boni. C'est pas la ratio entis. Non. Ratio boni. c'est la sagesse. Aristote dit hein, que la philosophie première est sagesse parce qu'elle regarde le bien. Et c'est ça le propre de la sagesse, c'est de regarder le bien. Donc c'est vraiment la sagesse, c'est une vision de sagesse. Et c'est la seule intelligibilité pour en avoir. C'est parlant. Alors vous comprenez, pour essayer de saisir, hein, vous comprenez que si je ne veux saisir Dieu que par le mystère de l'incarnation, je dirais que la seule chose que je saisis de Dieu, c'est sa bonté, et non pas son être. Donc je rais l'être de Dieu pour ne regarder que son amour et sa bonté. En disant que non, tout le reste, ce n'est pas chrétien. Donc parler de l'être de Dieu, ce n'est pas chrétien. Dire Dieu existe, ce n'est pas chrétien. Il est bien. C'est la seule fenêtre, vous voyez, par laquelle on entre. C'est important ça, parce que ça fait comprendre toute une série de mentalités de gens d'aujourd'hui qui sont en opposition vis-à-vis de la métaphysique, de la philosophie première, sont en opposition vis-à-vis du grec. Ils essaient de saisir le point de vue proprement chrétien, typiquement chrétien. Quelle est l'entrée dans le mystère de Dieu par le point de vue chrétien? La ratio bonis. Dieu est bon. Donc, l'incarnation est-elle nécessaire au relèvement du genre humain? C'est d'essayer de saisir le lien qui peut exister, le lien de perséité, le lien scientifique de perséité entre incarnation et rédemption. Est-ce que du fait même que la rédemption, que Dieu voulait la rédemption, est-ce qu'il voulait nécessairement l'incarnation? Voulant B, est-ce que A est contenu dans B? Est-ce que la raison même du salut des hommes implique l'incarnation? Alors, première objection, la puissance du Verbe divin n'est pas accrue du fait que de son union à la nature humaine. Il pouvait donc nous relever du péché sans recourir à cette union. Donc le Verbe de Dieu ne connaît aucun accroissement à sa vertu du fait de l'incarnation, c'est bien évident. Si donc le Verbe de Dieu s'incarne, donc pour réparer la nature humaine, même sans l'incarnation, il le pouvait. Il pouvait donc nous relever du péché sans recourir à cette union. Donc montrer les deux raisons totalement différentes, hein. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Dans l'opposition, dans les objections. Pour relever la nature humaine déchue, donc la première raison se prend du côté de Dieu. La seconde raison se prend du côté de la nature humaine, c'est ce qui est normal. Pour relever la nature humaine déchue par le péché, il suffisait, semble-t-il, que l'homme lui-même offrit une satisfaction pour le péché. Là, c'est tout Saint Irénée, c'est Saint Anselme, ça. Qui va apparaître ici. Dieu ne peut en effet exiger d'un être plus qu'il ne peut donner. Et comme par ailleurs sa miséricorde le porte plutôt à pardonner qu'à punir, s'il impute à l'homme l'acte de son péché, il tiendra compte aussi, pour le remettre, de l'acte contraire. Dès lors, l'incarnation n'est pas nécessaire pour le relèvement du genre humain. Oui, donc pris du côté de la nature humaine, c'est ça qu'il faut comprendre. La réparation de la nature humaine, déchue par le péché. Rien d'autre semble être requis pour que l'homme puisse satisfaire pour le péché. En effet, donc il semble que l'homme déchu peut réparer. Et c'est la grande question de Saint Anselme, la grande question de Saint Irénée. Ça, C'est intéressant, parce que ça touche tout à une tradition. Vous voyez, ça n'apparaît pas du tout dans la première raison. Saint Thomas, dans le premier article, j'allais dire, est au-delà de la tradition. Il s'appuie bien sur saint Augustin, sur saint Jean Damascène, c'est sûr, mais si vous regardez attentivement, il est au-delà. Il donne une raison scientifique. Une raison scientifique est indépendante de la tradition. Ça, c'est très fort. Pour faire comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. On ne l'accepte plus aujourd'hui, ça c'est vrai, nos mentalités ne l'acceptent plus. Donc faisons attention, mais ad intra, on a le droit de le dire. Ici on a le droit de le dire, pour essayer de comprendre ce que veut dire saint Thomas, c'est quand même important. Vous voyez, si saint Thomas s'était mis dans la tradition, il aurait mis l'article 2 avant l'article 1er. Tout simplement. Alors là, il était tout à fait dans le sens de saint Anselme, de saint Irénée, ce qu'on donne aujourd'hui, vous voyez, on dit, il faut... Attention, il y a une vision propre de saint Thomas sur l'incarnation. Ça veut dire quelque chose de propre. Il respecte entièrement la tradition, il n'est pas du tout en opposition. Mais il va plus loin dans son regard. Il y a quelque chose qu'il saisit dans un enracinement dans la bonté de Dieu. Alors, ce n'est pas du tout en opposition, hein, mais il explicite quelque chose qui n'était pas explicité. Alors, donc, en effet, Dieu ne peut exiger, alors c'est ça qu'il faut saisir comme raisonnement, parce que c'est là la faiblesse, hein. En effet, Dieu ne peut exiger de l'homme plus qu'il ne peut donner. Ça paraît être normal, hein. Autrement Dieu est injuste. Enfin, quand vous exigez d'un type plus qu'il ne peut donner, hein, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. J'en peux pas, moi, je ne peux plus, vous savez. À la fin de la journée, vous êtes fatigué, on va vous demander un temps. Ah, j'en peux plus. Même Dieu ne peut pas m'exiger plus. Attention, c'est du psychologisme, ça, vous voyez, la projection psychologique. Hein, parce que on comprend ça très bien. Là, ça. Dieu ne peut exiger de l'homme plus qu'il ne peut donner. C'est une merveilleuse excuse. Hein. Et comme sa miséricorde par ailleurs le porte plutôt à pardonner qu'à punir, c'est sûr, on est tous d'accord. Comme il impute à l'homme l'acte de son péché, ainsi il sent qu'il lui impute un acte contraire pour réparer le péché. C'est les deux contraires. Si on est capable de l'un, on est capable de l'autre. C'est la vieille loi philosophique. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable du contraire. On dira ça pour corriger un gosse. Tu es capable de faire, mais tu es capable de faire l'autre. Les deux contraires sont dans le même genre. Alors il a la capacité de l'un, donc il peut faire l'autre. Donc il a la capacité, c'est la correction ça, correction, bonne éducation, c'est comme ça. Vous le corrigez, tu as fait ça, et tu es capable donc de faire autre chose. Vous prenez toujours ce raisonnement-là quand vous corrigez un gosse, toujours, c'est toujours le même raisonnement. Alors là on transpose, on fait une espèce de raisonnement qui va plus loin. Donc il n'est pas nécessaire pour la réparation de la nature humaine que le Verbe de Dieu s'incarne. Politique de l'économie. Si quelqu'un est capable de faire, c'est pas la peine de demander plus. Principe de subsidiarité. Hein, vous le voyez bien, le principe de subsidiarité. Si l'homme est capable de faire ça, c'est pas la peine de déranger Dieu. Demandons à l'homme de s'arranger tout simplement. Et c'est normal que Dieu soit. Et c'est faire appel à toute la dignité de l'homme de faire ça. Troisième point. Le souverain respect que l'on doit à Dieu est une des principales conditions de salut pour l'homme. Mais ce respect sera d'autant plus spontané que Dieu apparaîtra aux hommes plus élevés au-dessus de toute chose et plus inaccessible au sens. Ça revient à la première raison, ça. C'est la transcendance. Il ne convient donc pas à notre salut que Dieu nous devienne semblable en se faisant chair. C'est vrai. Un des points essentiels dans l'éducation, c'est le respect qu'on doit à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Est-ce que l'incarnation ne va pas supprimer l'adoration? Il y a un bon juif dirait ça. C'est très bien votre incarnation, mais est-ce que ça ne va pas vous donner un sens complètement faussé de l'adoration? L'adoration, c'est quand même la chose principale. C'est la première éducation de Dieu, c'est l'éducation fondamentale. Alors est-ce que vous n'allez pas devenir petit copain? On va très bien, c'est... Alors oui, c'est ça qui est premier, c'est, on devient tout proche, on aime d'être tout proche, et puis c'est tout, mais c'est le respect, non. C'est plus le respect qui commande tout. C'est au contraire d'être tout proche. C'est très fort aussi, ça, mais c'est plus l'autre raison, vous voyez, c'est plus par rapport... Mais on voit très bien, pour faire que les deux articles se tiennent. Alors, réponse de saint Thomas. Ce qui sauve le genre humain de la perdition est nécessaire à son salut. Or, tel est le rôle du mystère de l'incarnation. Selon cette parole de saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'incarnation est donc nécessaire au salut de l'humanité. Vous voyez, ça aussi, hein, c'est extraordinaire comme manière de répondre. Hein. C'est pas tout à fait scientifique. C'est le sept contrats. C'est une herméneutique de la parole de saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, c'est de l'ordre de l'amour. Si c'est de l'ordre de l'amour, c'est donc une surabondance. C'est curieux que saint Thomas n'ait pas cité ça dans le premier article, parce que ça rejoint tout à fait la ratio boni. Oui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'incarnation est donc nécessaire au salut de l'humanité. C'est extraordinaire comme raison. Ça, c'est du très bon saint Thomas. Hein. Vous voyez l'inadéquation du raisonnement. Il faut comprendre l'inadéquation comme exégèse. Hein. La nécessité de l'incarnation repose sur le fait que Dieu a tellement aimé le monde. C'est une raison de convenance, non pas du salut, mais de la bonté de Dieu. Et saint Thomas ici la met ici. On va la comprendre. Hein. Je vais d'abord regarder avec vous la raison de saint Thomas. Parce que ça, c'est un très bel article, très intéressant, difficile. Parce qu'on entre absolument ici dedans. On va au moins commencer à le voir et puis on reviendra la fois prochaine dessus. Parce qu'au fond, ici, saint Thomas, il va assumer toute la tradition. C'est ici où il assume la tradition. C'est pour ça que c'est intéressant de voir l'ordre de ces articles. Une chose peut être nécessaire à la réalisation d'une fin d'une double manière. Donc, petit principe philosophique pris à Aristote, qui va lui permettre de préciser exactement le lien de la rédemption et de l'incarnation. Toutes les bêtises qu'on a pu dire proviennent, on a oublié cette petite distinction. Donc, une chose peut être nécessaire à la réalisation d'une fin, d'une double manière, par manière de nécessité absolue. En ce sens, la nourriture est requise à la conservation de la vie humaine, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, par manière d'utilité et de mieux-être. En ce sens, le cheval est excellent pour accomplir un trajet. Vous mettrez l'automobile. Au premier sens, on peut aller plus vite, donc il n'est plus excellent. Au premier sens, l'on ne peut dire, oui, au premier sens, on ne peut dire que l'incarnation est nécessaire au relèvement du genre humain. Là encore, ça a l'air de rien, mais on voit très bien quand saint Thomas a découvert ça dans Aristote, a découvert que le lien de nécessité d'un moyen à l'égard d'une fin, parce que c'est toute la question du moyen à l'égard d'une fin. L'incarnation est-elle nécessaire pour obtenir cette fin ? La fin, le relèvement de l'humanité, le salut des hommes, la rédemption. Est-ce que l'incarnation est nécessaire? Donc l'incarnation est prise, comprenons bien, comme un moyen. Ce n'est pas du tout un moyen, mais comme un moyen. Alors est-ce que nous devons regarder ce lien de nécessité entre les deux? Si je pose que Dieu, dans sa sagesse, veut sauver les hommes parce qu'il les aime beaucoup, faut-il poser nécessairement l'incarnation de cette contrat. Et cette contrat télescope les distinctions du corps de l'article. C'est merveilleux. Dans la distinction du corps dogmatique, saint Thomas va distinguer donc deux espèces de liens entre le moyen et la fin. Ça, c'est classique dans Aristote. Quand on connaît Aristote, on sait ça par cœur. Il y a un moyen nécessaire. Je ne peux pas atteindre cette fin sans ce moyen. Et puis, il y a des moyens, ça va mieux. Bien évident que ce n'était pas absolument nécessaire de venir en auto de Saint-Jean d'Arc. On aurait pu prendre un petit temps. Évidemment, il aurait fallu partir avant pour arriver à l'heure. Mais ça, c'est rien si on a le temps. C'est très secondaire. Alors, les deux moyens. Dieu, en effet, en vertu de sa toute-puissance, pouvait restaurer la nature humaine par une autre voie que celle-là. Donc, il pouvait prendre un autre moyen. Ça, c'est très vrai. On va le voir. Au second sens, il est exact que Dieu devait s'incarner pour réparer le péché. De là, cette parole de saint Augustin. Nous ne prétendons pas que Dieu, à la puissance duquel toutes choses sont également soumises, n'avait pas d'autre moyen de nous sauver, mais seulement qu'il n'y avait pas de mode plus convenable de guérir notre misère. Alors c'est très beau, vous voyez l'alliance de saint Augustin et d'Aristote. La distinction typiquement aristotélicienne est le texte de saint Augustin. Saint Augustin, sans le savoir, donc, c'est ça, ça va.